Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Euro.
Flora Moussi.
Il est 18h02, salut à tous, c'est parti pour l'intégrale Euro 2024 sur RMC. On est ensemble jusqu'à 19h avant de donner la main à Christophe Cessieux et toute l'équipe pour l'after tour, le débrief de la 14e étape de ce Tour de France et la grosse victoire de Tadej Pogacar. Mon équipe à moi aujourd'hui, parce qu'on va parler foot avec Tony Vérel et Steve Savidan. Salut messieurs.
Salut Steve, salut Flora.
On est à la veille de la grande finale de l'Euro, vous le savez évidemment, c'est demain à 21h entre l'Espagne et l'Angleterre. Fred Hermel et Julien Laurent seront avec nous pour débattre et savoir qui est le favori de cette finale. Une finale d'ailleurs où il y aura des Français sur la pelouse. Et oui, on vous en dit plus dans quelques instants. On parlera aussi des révélations de l'Euro et de l'avenir de l'équipe de France avec les Bleus qui disputeront les JO dans moins de 2 semaines maintenant. Bien sûr, on aurait aimé tous ressentir cette impatience et cette émotion avant une finale d'un grand tournoi international. Mais bon, l'équipe de France n'est pas en finale de 7 euros demain. Néanmoins, on a quand même hâte de voir ce que ça va donner entre l'Angleterre et l'Espagne. Deux équipes au style bien différent, mais avec de grandes stars de chaque côté. Nos deux stars à nous, elles sont présentes pour en parler. Julien Laurence et Fred Hermel. Salut messieurs.
Salut Flora, salut à tous.
Je vous entends rigoler, mais oui, vous êtes nos stars, hein. Vous êtes nos stars à nous, messieurs. Je sens qu'il y a de grands débats qui se préparent, mais un mot déjà peut-être sur l'ambiance aussi, parce que nous, évidemment, en France, le soufflet, il est un petit peu retombé quand même avec l'élimination des Bleus. Mais est-ce qu'en Angleterre et en Espagne, on s'emballe avant cette finale, Fred, tiens?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça a mis du temps à démarrer, comme toujours, dès qu'il s'agit de la sélection espagnole. Je le répète tout le temps, mais on va le redire aujourd'hui. L'Espagne est un pays de club au niveau football et non pas un pays de sélection. Donc, il y a toujours beaucoup de mal à convaincre. Mais au fil des matchs, au fil des performances, les gens se sont un peu raccrochés à cette aventure. Et là, il y a une belle unanimité en Espagne avant cette finale. Donc, bien sûr, puis en plus, comme il fait bon en Espagne, il y aura des écrans géants un petit peu partout. Ça va être une ambiance très sympathique. D'autant plus que, comme il y a des représentants, on l'évoquera tout à l'heure en parlant des Basques, comme il y a des représentants de beaucoup de clubs espagnols, c'est vrai qu'il y a une vraie cohésion. On est loin du débat Real-Barça autour de cette sélection. Donc il y a une véritable union du pays qui est plutôt sympathique dans un pays qui est, vous le savez, de par son régionalisme, en général très très divisé.
Union sacrée, on imagine aussi Julien en Angleterre derrière cette équipe et derrière ce titre qu'on convoite tant depuis des décennies maintenant.
Ouais, 58 ans, effectivement. Alors moi, je suis à Berlin depuis un mois maintenant, donc le ressenti anglais, je peux pas trop te le décrire comme ça là, parce que en tout cas, il y a beaucoup d'anglais qui sont arrivés aujourd'hui et hier à Berlin. Ils sont partout. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il va y avoir beaucoup de monde demain au stade, bien sûr, mais aussi.
Il doit y avoir la bière qui coule, Julien, partout.
Ah, ça c'est sûr. Déjà cet après-midi, en plus, il fait très beau ici. Je sais pas à Paris ou en Espagne,
c'est pas incroyable.
Très beau ici. Donc non, mais en plus ils sont là sans billets, quoi. Il y a, je pense, 80% des 150 000 Anglais qui n'ont pas de billets, donc ils sont là juste au cas où ça gagne. Ils pourront dire qu'ils étaient à Berlin le jour de cette victoire. Effectivement, tu l'as dit, hein, qu'ils attendent depuis tellement longtemps. Et je pense qu'au pays c'est pareil, tout le monde est là. On a vu des records d'audience à la télévision, notamment pour les matchs, et à la radio. Et là ce sera encore plus énorme demain soir.
Bon Steve, Tony, est-ce que vous êtes vous ambiancez avant cette finale? Est-ce qu'elle vous tente, cette finale?
Vas-y Tony.
Tu te décharges.
Oui, tu m'étonnes. Ça n'a pas l'air de trop t'exciter, mais
c'est l'honneur au plus âgé.
Ça commence bien.
Commencer, alors.
Oh, bah, vas-y,
non,
Tony,
c'est
alors.
Vrai que c'est vrai que c'est une belle finale quand même. Bien sûr, on aurait tous préféré que ça soit une finale avec la France. Mais non, je pense que c'est deux équipes qui sont totalement, qui ont un jeu totalement différent, qui ont vécu la compétition d'une manière totalement à l'opposé. Une qui est rentrée dans la compétition dès le début et qui a marché carrément sur l'euro, sur tous ses adversaires. Tout le monde la voit favorite, et l'autre de l'autre côté, les Anglais qui ne sont jamais véritablement rentrés dans leur compétition, mais ils sont là. Ils sont là avec des stars, enfin avec des joueurs vraiment exceptionnels aussi, mais on a l'impression qu'ils sont jamais vraiment rentrés dans leur compétition. C'est vraiment, il y a pas d'allant. On dirait qu'il y a pas d'enthousiasme derrière ce groupe. Donc, mais je pense que sur une finale, tout est possible. Et donc c'est ça qui me réjouit de voir ce match, c'est que je me dis tout est possible. Une équipe qui a marché sur l'eau depuis le début peut très bien en finale prendre une déroute par des Anglais qui sur le papier, sur l'ensemble de l'Euro, méritent pas de gagner l'Euro, mais c'est tout est jouable sur cette finale, donc c'est ça qui est beau, moi je trouve.
Steve, t'es pas emballé alors du coup là par ce petit Angleterre-Espagne?
Si, et ça me confirme qu'il fallait que je laisse Tony commencer. En plus, bon, c'est une confrontation de style, déjà d'une. Ouais. Faut quand même rappeler quand même que l'Angleterre était quand même donnée. Alors, je vais pas dire, était quand même donnée dans
beaucoup,
des favoris
ouais.
quand même.
Mmh.
Ouais, était
bien
quand
sûr.
Même donnée dans les favoris. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas rentrée dans l'Euro très rapidement. Ils se sont mis dans le dur lors de chaque confrontation. On se rappelle se retourner à la 93e de Bellingham qui va chercher la prolongation.
La qualification.
La ouais. qualification, pardon, ouais. directe. Donc, eux, ils ont été dans le dur. L'Espagne, on va dire et je rejoins Fred ce que disait tout à l'heure, peut-être que les Espagnols, en général, ont le sentiment qu'il y a une génération qui revient à cette Espagne de jeu dominateur, conservateur, qui va vraiment très très haut sur le terrain, qui conserve le ballon et qui gagne, un peu sur cette génération qui avait gagné pendant des décennies, on va dire entre 2000
moins de possession
et 2010,
quand même,
un peu plus.
Ouais,
ouais un peu moins de possession, mais dans la même idée de jeu.
Pas mal loin, parce que c'est notamment contre la Croatie, ça faisait un moment qu'il n'avait... je crois 116 matchs, qu'il n'avait pas perdu la possession sur un match.
Et c'est là où je vais rajouter quelque chose. Et c'est là où je vais rajouter quelque chose. Donc, ils ont cet ADN du football espagnol, je cours et tout. Et là, il y a un nouveau truc qui commence à arriver chez eux. Ouais. C'est que, ils ont ces joueurs de côté. Qu'ils n'avaient pas avant, qui peuvent jouer en contre, qui peuvent jouer en transition. Et je trouve que là, l'Espagne, si ça se confirme, deviendrait, je pense, dans cette idée de jeu, la plus complète à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont capables de conserver, parce qu'ils ont une technique, ils ont un sens du déplacement. Moi, j'ai regardé la finale avec mon fils, avec mes enfants qui pratiquent le football. Mais j'ai dit, mais c'est ça le football. Voilà, c'est conserver, c'est prendre du plaisir à se faire des passes et de redoubler, de se déplacer dans les espaces libres. Et puis, à un moment donné, d'exploser, de prendre sa chance, parce qu'on va en arriver tout à l'heure. C'est le petit Yamal, cette prise de risque qu'il prend en un contre un, bing, il arrive, il ouvre pied gauche, bim, ça rentre. Ça, peut-être qu'à une certaine époque, même quand il dominait le football, il ne l'avait pas, cette prise de risque et cette vitesse.
Il avait l'impression qu'il voulait rentrer dans le but avec le ballon.
Exactement.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que on se posait la question de savoir si c'était uniquement le choix de jouer avec des ailiers parce qu'il y avait des joueurs qui avaient ces caractéristiques-là, en l'occurrence Lamine Yamal et Nico Williams, mais c'est un choix aussi tactique et de style de l'entraîneur, puisque dans le troisième match qui comptait pour Dubeur, c'était le match contre l'Albanie, l'Espagne jouait avec Oyarzabal et avec Ferran Torres, et ils ont joué exactement comme si c'était
exactement pareil.
Exactement pareil. Alors que c'était
Fred,
évident avant. Mais c'est-à-dire que c'est pas simplement suivre les caractéristiques des joueurs, c'est aussi imposer ce style-là.
Oui. Mais c'est vrai que Fred, on va quand même en être jaloux de cette formation à l'espagnol. C'est-à-dire que quand on regarde l'équipe nationale, et moi j'ai la chance dans le sud-ouest de pouvoir être confronté souvent à des clubs basques ou même un peu plus loin qui peuvent jouer, qui sont espagnols, et on a cet ADN. On a cet ADN du jeu, du ballon, cette relation avec les espaces.
C'est une question d'information, en fait. C'est que les joueurs qui sont choisis sur leur technique à 7-8 ans avant
exactement.
Leur physique.
Mais tu vois, c'est ça qui est incroyable.
C'est libéré depuis le début, quoi.
Et tu veux dire, Steve, que c'est ce qui nous manque, nous, en France?
J'ai pas dit ce qui nous manquait. C'est pas que ça. C'est que quand on regarde, en fait, une équipe nationale, je trouve que l'Espagne reflète le football du territoire, de la nation. C'est ça qui est incroyable. Alors que nous, on va dire quand... En France, j'ai toujours entendu des super DTN, des super entraîneurs nationaux qui disaient mais la France c'est le métissage de tous les footballs. Oui, on se rend compte qu'en fait en faisant tout, en mélangeant tout, en fait on se rend compte que c'est un fourzi tout.
Ça donne pas grand chose.
Et en fait on se rend compte qu'on n'a pas d'identité en fait nationale dans le foot. C'est peut-être
on en a eu une identité.
98. bloc
ouais,
défensif.
Mais même avant, en 82, je veux dire, c'était le beau jeu. C'était d'ailleurs, on nous reprochait beaucoup. Si tu veux, moi, je me
rappelle bien, on gagnait tout le temps.
Ouais, non, mais c'était il y a longtemps. Moi, j'étais jeune, mais j'ai toujours entendu mes aînés dire nous, en France, on a un beau jeu, mais par contre, on n'a pas la culture de la gagne. Tu sais, comme les Italiens à l'époque.
C'était des pays de l'Est.
Ouais, voir les Italiens à l'époque de 82, l'Italie qui gagne, elle n'était pas belle à voir jouer, elle était hyper défensive, mais elle marquait des buts. Mais si tu veux, c'était un football comme ça. Et les gens étaient contents. En Italie, le principal, c'était de gagner. Après, parce que moi, je trouve qu'en France, on est un peu exigeant parce qu'on voudrait tout. On voudrait et le beau jeu, on voudrait et la victoire. Et tu vois, il faudrait que tout soit réuni. Mais en fait.
Bah, moi, Tony, tu vois, je ne suis pas trop là-dessus. Moi, je trouve que.
Mais l'Espagne.
Nous, on s'habitue tellement à gagner qu'on est prêt à vouloir tout pour gagner. Moi, je trouve que c'est là qui est dommage. C'est que tu vois, par exemple, on ne se remet jamais en question, mais Fred va me le confirmer, même si je le sais, il va nous le confirmer. Il n'y a pas réellement de politique de formation du territoire. En Espagne, on habite là à côté de l'autre. Tu sais très bien que quand on va en Espagne ou quand les Espagnols viennent dans le sud-ouest, tu vas sur Anglette, sur Biarritz, tous les directeurs sportifs des clubs amateurs, c'est des gars du Pays Basque espagnol. C'est des gars, ils arrivent d'Espagne et tu vois cette culture de foot, bah tu le vois tout de suite que ça joue au ballon. C'est ça qui est incroyable.
Mais
on
n'a
pas
parce
nous,
que
cette
ah non mais on non, l'a pas.
Surtout, c'est important de voir que tous les clubs ont un bon centre de formation. C'est-à-dire même quand il y avait de gros problèmes financiers, et Dieu sait qu'il y en a eu,
il y en a eu des
époques très compliquées, et d'ailleurs on est dans une période en ce moment de problèmes financiers des clubs espagnols, ils n'ont jamais lésiné sur les centres de formation. Et d'ailleurs c'était très utile, parce que quand il n'y avait plus d'argent pour acheter des grands joueurs étrangers, on faisait confiance aux jeunes.
Mais le Portugal est à peu près dans la même idéologie. Tu regardes, moi je vois les centres de formation, parce qu'ils appellent même ça en amateur, les centres de formation, des clubs qui pourraient être équivalents à des clubs de National 2, de National 3, voire de National en Espagne et au Portugal. Ils ont des réels centres de formation, des académies.
Bon, mais on va revenir quand même à la finale qui nous intéresse demain. On a un petit peu dérivé là, malgré tout. Julien, on a parlé un petit peu là des forces qu'il y a côté offensif, notamment du côté de l'Espagne. T'as peur ou
ils ont personne,
avant demain?
Ils ont personne.
T'es inquiet ou pas?
Inquiet, non, parce que pour moi, je pense que cette équipe d'Angleterre, elle a la baraque. Hein. Je pense qu'il peut rien lui arriver dans cette
compétition. Ah ouais, toi, tu les vois là, aller au bout là, ça y est.
Toujours la chance. Ça compte.
Mais je pense qu'il n'y a même pas de. Dans certaines des performances, des matchs, il n'y a même pas d'explication.
Rationnelle.
Réaliste, quoi.
Quand tout réussit.
C'est des trucs de fou. Steve parlait du retourné de Bellingham tout à l'heure pour à la 94e pour accrocher la prolongation contre la Slovaquie, le but de Watkins même contre les Pays-Bas, alors qu'en seconde période, il n'y a rien côté anglais. Il recule
puis
encore.
Que ça vienne de Watkins en plus, c'est encore.
En plus, t'as raison. Mais donc voilà, pour moi, c'est ça, en fait. Ils ont beaucoup de talent, bien sûr, surtout individuellement, parce que collectivement, ils ont quand même pas mal galéré, et vous savez ce que je pense du sélectionneur. Mais individuellement, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Si on s'amuse à faire un 11 en mélangeant les joueurs des deux effectifs, il y aura plus d'anglais que d'espagnol sur le papier.
Mais franchement, tu trouves pas que ce qui est dommage dans la confrontation de ces deux équipes, je trouve que le perdant, il va perdre beaucoup, je trouve. Parce que d'être arrivé jusqu'en finale, comme tu dis, que ce soit du côté anglais avec cette baraka, avec quand même des joueurs, on les annonçait pas le favori, mais dans les favoris de cet Euro. L'Espagne qui a une réelle culture de jeu avec des jeunes phénomènes, parce qu'il n'y a pas que Yamal avec ses 17 ans, hein, et ils ne sont pas tous très vieux non plus, hein, avec une réelle identité de jeu. Et je me dis que ces deux équipes-là qui arrivent en finale, ils ont deux projets totalement différents. Ben je me dis, il y a l'histoire quelque part pour l'Angleterre, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis après, on va dire 50 ans. L'Espagne, bon, qui a quand même gagné, on va dire, dans les dernières décennies. Et je me dis, mais c'est dommage que ça soit eux deux. Pas par l'amour du jeu, mais je me dis, parce que malheur au vaincu, en fait. Parce que l'Angleterre, qu'est-ce qui va se passer s'ils perdent?
Est-ce que justement c'est pas l'Angleterre qui a le plus gros à perdre? Parce que finalement, il y a eu déjà cette finale perdue contre l'Italie, il y a cette génération où forcément, au bout d'un moment, t'es obligé de gagner.
Moi, je pense que
Flora a raison. C'est l'Angleterre qui a le plus à perdre. Ouais. L'Espagne, en fait,
il est pas chounard, lui. Dès qu'il va quelque part, il gagne rien.
Tu parlais de Baraka, Julien, quand t'as Harry Kane dans l'équipe, c'est pas sûr, hein, quand même. Hein.
Bah justement, mais c'est là où finalement c'est l'exception qui confirme la règle, puisque même avec lui et le chat noir, ils arrivent à aller jusqu'en finale encore. Mm. On verra demain, bien sûr. Mais ce qui est intéressant sur ce que tu dis, Flora, juste avant que Tony reprenne. Ouais. C'est le début du cycle pour De La Fuente. Avant, il a été très bon dans les équipes de jeunes, avec l'équipe olympique, etc. Tout ce qu'on veut. Mais chez les grands, c'est le début. Southgate, c'est la fin. Même s'il gagne demain, je pense qu'il partira. Il va devenir Sir Gareth Southgate, qui gagne ou qui perde, à mon avis. Il a fait du très bon travail pour pacifier l'environnement de cette sélection anglaise, parce que ça a très longtemps été toxique, notamment avec les tabloïds. Après, sur le terrain, il est passé à côté de choses. Il a fait un peu n'importe quoi parfois, etc. On verra demain. Demain, s'il perd encore, il y aura toujours un mais, il y aura toujours un quelque chose, un but, c'est comme ça. S'il gagne demain, c'est la consécration, très bien, tant mieux pour lui. Mais lui, pour l'Angleterre, pour cette génération-là, c'est pas forcément la fin de cycle parce que t'as des Foden, t'as des Saka, etc. Ouais. Mais en tout cas, pour le cycle Southgate, ce sera
Et tous ceux qui n'ont pas été pris.
Ouais, parce qu'il y a un vrai Lili aussi en Angleterre.
Des joueurs comme ça qui n'ont pas été sélectionnés. Ouais. Après, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tout cet environnement donne presque envie que ce soit l'Angleterre qui passe, parce que tu te dis l'Espagne.
Désolé, Fred.
Ils sont dans un nouveau cycle et eux, ça va rouler pour eux de toute manière. Ils vont et l'Angleterre, avec tout ce qu'on a cité, les malheurs de Harry Kane, qui est en plus un super mec. Enfin, des retours que j'en ai, des joueurs qui ont pu jouer avec et tout, c'est vraiment.
C'est vrai qu'on a envie de le voir gagner au moins quelque chose une fois dans sa vie.
C'est vrai. Et donc voilà, c'est
pas forcément, on leur souhaite. Pas forcément, Tony, pas forcément. Hein.
Ouais, mais si tu veux, sur le
toi,
match-là,
t'as un penchant
si
pour l'Espagne, Steve, hein, on a compris là.
Non, mais moi, quand même. Je dis pas que j'ai un penchant plus pour
l'Espagne. Esteban Sabidan.
Non, mais je dis pas que j'ai un penchant plus pour les Anglais que pour les Espagnols, parce que moi, je suis pour le beau jeu et entre guillemets, que le meilleur gagne, même si ça paraît banal de dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
émotionnel.
Émotionnellement.
Ouais. Parlant.
Dis-le en ch'timi, Fred, il va te comprendre.
Voilà, ça ira plus vite. Si tu veux, tu te dis, bon, il y a des bons mecs.
Ouais, il y a un petit attachement,
Voilà, tu te dis, tu serais content que ce mec-là gagne quelque chose parce qu'il ne mérite pas cette étiquette de chat noir. Je veux dire, même là, regarde, il est au Bayern, il fait une saison, il marque quand même, je crois, plus de 20 buts. Et derrière, on dit que c'est un chat noir.
Ouais, alors
il a pas de trophée.
Alors que le Bayern gagnait tout jusque-là, c'est vrai.
Exactement.
Bon, messieurs, restez bien.
Si tu me permets un tout petit mot.
Vas-y, Fred.
Sur le fait que l'Espagne a beaucoup à perdre aussi, je crois.
Ouais.
Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une mayonnaise qui a pris cette fois depuis le premier match. En fait, toutes les planètes sont alignées depuis le début.
Bah, on s'attend à ce qu'il gagne, oui, ça c'est sûr.
Ouais, donc, mais c'est-à-dire que je ne sais pas si cette... Ils pourront refaire exactement la même chose. Tu vois ce que je veux dire? J'attends pour savoir vraiment s'il y a un truc génial qui se passe avec l'Espagne, qu'ils gagnent là et qu'ils soient de nouveau rendez-vous au Mondial. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que là, Pedri se blesse, Olmo arrive. Jamais personne n'a vu Olmo à ce niveau-là.
Oui, et puis pas sûr qu'il refasse une compétition à ce niveau-là non plus.
Fabien Ruiz, jamais personne ne l'a vu à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire?
Même pas les Parisiens.
Surtout pas les Parisiens.
Ouais, voilà. Non, mais Carvajal, par exemple, on sait qu'il est à un niveau exceptionnel, mais ça va pas durer non plus 10 ans. Hein, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Unai Simón, c'est un bon gardien, mais là, il fait parfois des arrêts dignes du plus grand Casillas, quoi.
Ouais.
Donc il y a tout un mélange à un moment comme ça donné où ça marche.
Et c'est le moment pour gagner, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que je suis pas sûr que ça sera toujours aussi bien, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais donc, il faut vraiment le gagner parce que là, maintenant, la mayonnaise, elle a pris, il n'y a plus qu'à la déguster.
Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur ce match. Messieurs, ne bougez pas. Il est 18h19. On revient tout de suite dans l'Intégral Euro avec toute l'équipe pour continuer de parler de cette finale et notamment des stars qu'on attend évidemment des deux côtés. À tout de suite sur RMC.
RMC. Intégral Euro.
Flora Moussi. 18h22, on est de retour dans l'Intégral Euro 2024 sur RMC avec Steve Savidan, Tony Vérel en musique. En plus, merci à Julie Leroux, notre réalisatrice du jour. À la veille de la grande finale entre l'Angleterre et l'Espagne, on est toujours avec Fred Hermel et Julien Laurence. Messieurs, parlons un peu des stars des deux équipes et notamment de Jude Bellingham que les Espagnols connaissent parfaitement. Évidemment, Fred, on va t'entendre dessus. Mais d'abord, Julien. Bah oui, je sais qu'il est bien apprécié en Espagne, mais en Angleterre, Julien, est-ce qu'on n'attendait pas un petit peu plus finalement du joyau anglais dans cette compétition ?
Si, complètement, complètement. On parle de Ballon d'Or, on parle de tout ça en cas de victoire demain. C'est anormal, hein, doubler Ligue des Champions, Euro.
Sur
la
le
même
palmarès,
année,
bon. En tout cas, oui, il sera là. Après, le reste.
Mais il y a beaucoup de déceptions en Angleterre, effectivement, sur sur ses performances, sur son rôle aussi, sur son attitude parfois. Parce que on a quelques retours un petit peu de l'intérieur du camp anglais où tout est pas forcément génial de la part de Jude Bellingham et de la famille
quoi,
Bellingham
dans son ensemble.
C'est quoi dans son investissement
Ouais, il y a un petit peu de ça, Y a... C'est le seul qui a pas fait de conférence de presse, par exemple.
Ah.
Dans cet Euro.
D'accord. Il refuse de parler aux médias.
Ben, c'est un peu bizarre que tous les autres fassent des conférences de presse. Mais en revanche, quand il faut faire le sponsor principal de l'Angleterre qui fait des vidéos un peu marrantes qui sont après partout sur les réseaux sociaux,
là,
forcément, il est disponible, c'est le premier à faire. Donc, voilà, des petites choses comme ça. Mais il est jeune, je pense qu'il va apprendre beaucoup.
Ça, c'est depuis qu'il est au Real Madrid, Fred. Hein. Bravo. Hein.
Non, mais peut-être que quand il est une superstar.
C'est pas beaucoup d'attendre Florent... au Real Madrid.
Hein. Ah ben, ouais, mais peut-être que quand tu deviens une superstar comme ça. Si jeune, c'est ce qui se passe aussi, ouais. Je sais pas, mais après, moi, j'ai aucun souci sur le fait qu'il joue un petit peu la diva dans le camp, mais après, il faut que sur le terrain, ça suive. Ouais, oui. Et le problème, c'est que sur le terrain, malgré le retourné dont on a parlé, mais ce qui était quand même la seule chose qu'il a fait contre la Slovaquie, le but de la tête contre la Serbie, parfait, mais encore une fois, la seconde période a été beaucoup plus compliquée, et surtout dans le reste, c'est quand même assez décevant finalement par rapport à un joueur de ses qualités et tout ça. Donc, qui retrouve pas la forme du Real, c'est un peu normal. Il faut qu'on arrête de comparer le football de club et le football international, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais il y a quand même un petit peu de déception.
Vas-y, Tony.
Une petite question. Tu sais, à un moment donné, alors pas le dernier match, mais l'avant-dernier match, quand il doit sortir, tu sais, ils annoncent.
Ouais,
tu
te rappelles le numéro 10, ouais.
Est-ce qu'il devait vraiment sortir ou est-ce que c'était une erreur? Parce que ça, on en a pas trop parlé. Mais ou est-ce que c'est lui qui a pas voulu sortir du terrain?
Ouais, c'est une très bonne question, Tony, parce qu'on n'a pas la réponse finalement. Et Southgate n'a jamais voulu vraiment la donner. Bellingham en parle pas, parce qu'on a dit il parle pas. Beaucoup d'anglais, beaucoup de gens en Angleterre, parmi les supporters, mais parmi les consultants, les anciens joueurs, tout ça, sont convaincus que c'était son numéro et que c'est sa réaction qui a fait changer d'avis Southgate. Après, c'est aussi très possible que ce soit une erreur du gars qui met les numéros, mais à ce niveau-là, tu vois, le quatrième arbitre ou le mec du staff anglais qui est censé donner le numéro, entre un numéro 10 et un numéro 17, on se trompe pas, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est très, très rare voir des erreurs comme ça. Donc, je sais pas.
Surtout
mais...
quand tu vois sa réaction.
Ouais.
Si tu veux.
Quand tu vois la tête qui.
Il aurait fait l'étonner. Il aurait fait l'étonner et puis qu'il s'avance quand même vers le banc. Mais là, en fait, sa réaction, c'était de dire non, quoi, comment moi me sortir, quoi.
Ouais.
Et tout à fait, c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre.
C'est la question que je sorte. Ouais.
Mais bon. par rapport à son niveau, Eden, c'est un peu dans l'ordre de ce qu'il a montré au Real.
Ben oui, c'est ce que j'allais te dire.
Ouais,
la première partie de saison, mais la deuxième partie, il n'a pas été pas très bon. Hein.
Ah oui.
Non. Depuis le mois de janvier, alors son intégration a été fulgurante.
C'est ça aussi, c'est qu'il a fait une première saison.
Voilà. Mais jusqu'à Noël, donc on a tous eu l'impression, c'est peut-être un peu en trompe-l'œil, on va dire ça y est, il est exceptionnel, il est grandiose, etc. Il a marqué beaucoup, beaucoup de buts en début de saison, ce qui fait qu'il a toujours été dans la course pour ce qu'on appelle le Pichichi, hein, le trophée des meilleurs buteurs de la Liga. Mais sincèrement, depuis l'hiver, c'est pas un grand Bellingham. Hein. Il a marqué un but décisif contre le Barça, mais pour le reste, c'est pas lui qui a fait basculer le destin des matchs.
Hein. Parce que juste une petite question, on parlait de Bellingham pour le Ballon d'Or, mais Carvajal. C'est un défenseur, je sais très bien qu'il est défenseur, mais je veux dire, il a quand même gagné la Ligue des Champions. Si là, il gagne l'Euro.
Et en mettant des buts, important.
Et exactement, il a marqué en finale, tout ça. Je veux dire, est-ce qu'il pourrait pas être prétendant au Ballon d'Or? Est-ce que c'est envisageable?
Tu sais bien que non, malheureusement.
Ouais, mais c'est dommage.
Médiatiquement, footballistiquement, oui. Médiatiquement, je pense que ça sera difficile.
Mais c'est justement là-dessus aussi que je voulais t'entendre aussi, Fred, sur Bellingham, parce que tu le disais, il est très apprécié en Espagne et notamment au Real Madrid. L'attitude dont parlait Julien il y a quelques instants, son attitude dans le vestiaire, est-ce que c'est quelque chose dont on parle aussi en Espagne?
C'est tout le contraire. Ouais. C'est tout le contraire en Espagne. C'est pourquoi ça me surprend. Et je suis content que Julien nous en parle, parce qu'au Real justement c'est le modèle d'intégration, c'est-à-dire au niveau footballistique on l'a évoqué, mais au niveau personnel il est très sympa, il est devenu très pote tout de suite avec Vinicius, avec Rodrigo, voilà, il est dans les rigolos de la bande, ça se passe bien, il est toujours très élégant avec les autres, il a su se mettre dans le moule du Real Madrid en considérant que le club était plus important que lui. Il n'est pas arrivé, je suis la star, pas du tout.
Mais il n'était pas la star, c'était pour ça. Alors que là, il arrive avec l'équipe d'Angleterre, c'est lui la star.
Ah bah oui,
maintenant.
Oui, bah oui.
C'est ça, la dynamique est différente en fait.
Ouais,
mais du coup,
c'est dommage qu'il se fasse son petit crâneur dans le vestiaire anglais parce que ça lui va pas en plus. C'est pas, il ressemble
pas à ça. C'est pas l'image première ouais, qu'on avait
parce
de
que
lui.
Tu vois comment il est sur le terrain avec le Real, c'est quelqu'un de tout le temps positif. Tu vois, dans
les toujours dans le sourire. Regards,
c'est pas quelqu'un qui va faire des reproches à un joueur parce qu'il a pas passé le ballon, etc. On a souvent l'image de Cristiano Ronaldo, etc. Mais qui pourtant était très apprécié dans le vestiaire.
Ou d'autres,
bien sûr. Mais là, tu vois, je suis surpris et un petit peu déçu par ce que raconte Julien.
Ouais, et puis c'est vrai qu'est-ce que du coup, comme on le connaît très bien en Espagne, est-ce qu'on prépare un plan anti-Bellingham pour le match de demain ou alors il y a déjà suffisamment de talent partout, on ne peut pas se concentrer
Non, l'Espagne va continuer. Il y a eu un plan anti-Mbappé parce que il y avait Navas qu'il fallait aider. Ouais. D'ailleurs, on a vu qu'au début, c'était très compliqué pour Navas. Hein. Donc, il y avait des couvertures de Rodri et de Nacho. Mais sincèrement, là, l'Espagne ne va pas changer sa manière de jouer en étant la finale, surtout que le danger en Angleterre, il arrive quand même par plein d'autres endroits, quoi. Donc, l'Espagne va continuer dans ce qu'elle a fait depuis le début.
Puis, au vu de sa compétition aussi, compétition, c'est vrai que.
Il faudrait pas qu'il se réveille là en finale, quoi, pour l'Espagne.
L'Espagne, les arguments. Mais moi, je suis d'accord sur un match. Franchement, pour moi, il y a aucun favori entre les deux. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire, sur le papier, quand tu regardes le statut habituel en dehors de cette compétition des joueurs, l'Angleterre est devant.
Ouais, c'est ce que disait Julien.
Si tu regardes l'image montrée durant cette phase finale, l'Espagne est devant. Donc, pour moi, c'est très très équilibré. C'est impossible de dire ah oui celui-là, cette équipe va écraser.
Moi, je vais quand même aller un peu plus dedans. Moi, pour moi, le favori, c'est quand même franchement, c'est l'Espagne, parce que vu la raclée qu'ils nous ont mis, hormis le score, mais surtout la manière.
Qui nous ont
tourné alors qu'on est quand même l'une des équipes favorites parce qu'on reprend aussi. Mais moi, quand je vois la raclée qu'ils nous ont mis, mais honnêtement, ils sont favoris. Je rejoins Julien, comme il disait tout à l'heure, c'est peut-être l'année où ils vont avoir de la chance. L'Espagne, c'est pas de la chance. Ils sont passés par une réculture de jeu, un projet de jeu, avec des joueurs concernés, impliqués, respectueux des consignes. Et puis ça a fonctionné dès le premier match. Mais aujourd'hui, sans parler du papier ou intrinsèquement ou individuellement chaque joueur, l'Espagne dans leur projet de jeu, et je parle même pas que des 11, je parle des 16 joueurs avec leurs remplaçants.
Ils ont maîtrisé leur sujet.
Ils ont maîtrisé leur euro, ils sont montés crescendo en puissance jusqu'à ce que ils battent quand même l'équipe de France, tu vois, c'est pas anodin quand même, tu vois.
On est
quand même une grosse et puis ils ont
pris un but.
Ils nous ont fait vraiment
ils menés,
super. Et moi je trouve. Et puis même quand on menait, ils sont restés dans leur projet de jeu. Vraiment.
Ils sont restés calmes.
Quand ils sont revenus comme ça en 4-5 minutes, bon là on a dit allez c'est bon. D'un dès qu'ils avaient marqué
sur des éclairs de génie.
Ouais, mais les éclairs de génie, on se dit que de toute façon même par le jeu ils y seraient arrivés.
Oui.
Même par le jeu ils y seraient arrivés. Peut-être.
Ah, parce qu'avant le but qu'on marque. Le but qu'on marque, c'est eux qui ont les deux occasions. Hein. C'est eux qui ont deux occasions.
Tu te rappelles Fabien Ruiz, la tête qu'il a juste avant qu'on marque.
Bien sûr.
Normalement, c'est cadré. Mais moi, pour moi, le favori.
Que j'ai découvert à cette équipe d'Espagne au fil des matchs, j'ai appris des choses à chaque match. Chaque fois, il y a eu un nouvel enseignement. Moi, ce qui m'a épaté, outre la qualité technique, etc., là, et des joueurs, j'insiste, qui sont au-delà de leur niveau supposé ou habituel, c'est la compétitivité de cette équipe.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à aucun moment cette équipe s'est dit on est inférieure ou elle a été menée contre la Géorgie. Bon après ça a été facile, mais après elle a été menée contre la France. Il n'y a pas eu d'inquiétude en fait. C'est une équipe qui se dit on est compétitif, on a peur de personne.
Qu'on
supposait avant la compétition.
Ouais, effectivement. Bon messieurs, on va remercier Fred et Julien d'avoir été avec nous.
Merci
messieurs,
Fred.
On va retrouver évidemment toute la
avec
soirée, demain aussi toute la journée sur RMC pour les dernières infos. Il y a des confs de presse des deux sélectionneurs ce soir d'ailleurs. Merci beaucoup messieurs. 18h32 sur RMC. Steve, Tony, vous ne bougez pas. On continue de parler de cette finale où il y aura des Français. Il y aura un petit accent français quand même dans cette finale. On va vous expliquer pourquoi. Et puis réfléchissez bien. Je vous laisse une petite pause, messieurs, pour nous dire aussi en revenant qui sont vos révélations de cet Euro. 18h32. On revient tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Euro.
Flora Moussi. 18h35, on est de retour sur AMC dans l'intégral Euro. On vous accompagne jusqu'à 19h avant de passer le relais à Christophe Tessu et toute l'équipe de l'After Tour pour revenir sur la 14e étape du Tour de France. Vous l'avez suivi sur RMC, la nouvelle victoire de Tadej Pogacar qui s'envole au classement général. Nous, on continue de parler avec Steve Savidan et Tony Vérel de la finale de l'Euro qui nous attend demain entre l'Angleterre et l'Espagne. On est évidemment déçus de ne pas voir la France en finale, mais il y aura un petit accent français malgré tout derrière le sifflet notamment. Valentin Jamin est avec nous depuis l'Allemagne pour en parler. Salut Valentin.
Salut les amis, salut à toutes et à tous.
C'est notre petite fierté, hein, Valentin, de retrouver un Français pour arbitrer la finale quand même.
Oui, François Le Texier qui a été choisi avec toute son équipe effectivement pour arbitrer cette finale de l'Euro. Déjà, il faut dire que c'est historique, hein, c'est seulement le deuxième Français à diriger une finale d'un Euro depuis Michel Vautrou en 1988. On a aussi eu deux Français dans l'histoire qui ont dirigé des finales de Coupe du Monde. Mais évidemment que c'est un choix fort, d'autant que le match d'ouverture Allemagne-Écosse avait été dirigé par un autre Français, Clément Turpin. Donc l'arbitrage français au niveau européen est mis tout en haut. Et évidemment, ça fait la fierté aussi des instances tricolores. Notamment le président de la Fédération française, Philippe Diallo, qui s'est exprimé en parlant de fierté pour notre football, une désignation qui, selon lui, vient récompenser une exigence, un investissement et des performances au plus haut niveau au terme d'une saison remarquable. Alors, peut-être que certains présidents, en lisant ça, vont avoir des poils qui se hérissent un petit peu, parce qu'on a eu beaucoup de débats quand même, il faut le dire, notamment depuis début 2024 sur l'arbitrage, la VAR. Il y a eu des polémiques, il y a eu des réunions, il y a eu des présidents qui sont sortis du bois, il y a eu des bisbilles internes avec le patron de l'arbitrage professionnel français, Stéphane Lannoy, qui a été, on va dire, éjecté. Mais au final, on est content qu'au niveau européen, tout cela fonctionne. Et puis, dire également que les Français, en tout, ont arbitré 7 matchs dans 7 euros. Donc, ça n'est pas rien. On verra ce que ça va donner demain entre l'Allemagne et l'Angleterre, même si, et c'est pas pour nuancer évidemment le niveau de François Le Texier, mais on va dire que l'équipe française a été un petit peu aidée par la finale, puisque ni Michael Oliver ni Anthony Taylor, qui sont de très bons arbitres anglais, ne peuvent officier, comme Jesús Gil Manzano, l'Espagnol, qui est également un arbitre international. Mais il faut quand même effectivement souligner cette sorte d'excellence qui est reconnue au niveau européen, et François Le Texier qui sera au sifflet avec son équipe française demain soir.
Bah oui, Steve, Tony, je vous entendais rigoler un petit peu, mais oui, je vous entendais sourire, messieurs, parce que c'est vrai qu'on a eu plein de débats sur l'arbitrage cette année, ça a grincé des dents un peu dans les clubs de Ligue 1, et là finalement, on n'est pas si mauvais que ça niveau arbitrage.
On va pas pouvoir pendant quelques années encore. Je ne vais pas dire remettre en question l'arbitrage français, mais en tout cas en parler de façon très libre et puis objective. C'est clair que Le Texier, de toute façon, est l'un des meilleurs arbitres français et aujourd'hui.
Et le meilleur arbitre d'ailleurs.
Voilà, et l'un des meilleurs aussi arbitres internationaux, ça, il faut savoir le reconnaître. Ce qu'on a toujours relevé, moi le premier, c'est qu'il y a une différence. Je parle de nos arbitres, comment ils arbitrent notre Ligue 1 et comment ils arbitrent dans les championnats, que ce soit en Ligue des Champions ou pendant l'Euro ou pendant une Coupe du Monde. Oui. Il y a une différence d'attitude, et je dirais, alors ça joue aussi par rapport aux joueurs, peut-être aux enjeux, mais en tout cas, on ne les voit pas non plus survoler notre championnat par, j'allais dire, je ne vais pas dire leur professionnalisme, ce n'est pas ce que je voudrais dire, mais en tout cas par un sentiment de sécurité et de justesse des fois. Donc je me dis, très bien, c'est très bien, et je rejoins le président Diallo, dire que c'est une mise en avant du travail qui a été fait en France, mais il reste encore beaucoup de travail en France. Mm-mm. On est bon à l'étranger, ou pour les étrangers, mais par contre pour la France, je pense que nos arbitres doivent progresser et doivent revenir un petit peu à, et c'est ce que je lui souhaite, c'est de faire une très belle finale. Un arbitre qui fait un très bon match, un arbitre qu'on ne voit pas, c'est un arbitre qui laisse jouer. On a remarqué aussi pendant l'Euro qu'il y avait des nouvelles consignes dans le laisser jouer. Ouais. Un petit peu aussi en fin de saison sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc moi, je souhaite de prendre beaucoup d'expérience, de faire une très belle finale, de revenir avec ça, mais de se mettre aussi à la hauteur de la Ligue 1. Parce que c'était ça aussi, c'est leurs attitudes.
Oui,
c'est-à-dire que dès qu'ils allaient en Champions League ou en Coupe d'Europe, ils revenaient, ils avaient une tête. Bon, bah, laisse tomber.
Ouais, mais Steve aussi, le truc, c'est que, alors moi, tu étant ancien joueur aussi, bon, j'ai toujours respecté les arbitres, jamais manqué de respect à qui que ce soit. Mais est-ce qu'aussi en France, on n'a pas aussi de temps en temps un manque de respect pour les arbitres sur le terrain, qui
tu
fait
sais,
qu'à
le
un
respect
donné...
c'est dans les deux sens, mais le respect aussi ça se gagne.
Ah non, mais bien sûr.
Je ne juge pas celui qui ne l'accorde pas. Je dis aussi que le respect ça se gagne, et je pense que l'arbitrage français est en révolution aujourd'hui. On l'a vu hein, au niveau des instances. De l'arbitrage français, c'était une révolution. Il y avait des clans, ça partait un petit peu dans tous les sens. Ils savent aussi peut-être se remettre en question, donc c'est aussi un virage. Que Le Texier soit confirmé pour la finale, c'est très bien pour cette, justement, cette remise en question. Mais maintenant, moi, ce que j'attends, c'est aussi des actes. c'est de voir tous les week-ends un arbitre qui puisse communiquer, que l'arbitrage français puisse s'adapter à la VAR, puisqu'on est comme l'un des derniers gros pays européens qui s'y était mis à la VAR, d'avoir, alors je dis pas qu'on aura plus de débats, parce qu'on aura toujours des débats, mais moi ce que je voudrais, c'est aussi que cette interprétation faite par l'arbitre soit beaucoup plus du football, dans le ressenti football.
Qui est expliqué. Mais moi, là où j'en suis, si tu veux, Steve, c'est que est-ce que nous aussi, on pourrait pas, dans notre championnat aussi, passer un message en disant que il faut peut-être arrêter de toujours discuter les décisions d'arbitre.
Tu sais comment ça va être réglé, Tony. T'es proche du rugby. Je le sais.
Oui, oui.
Tu sais comment ça se passe. T'as pas le droit de t'approcher devant l'arbitre ou c'est le capitaine. Donc c'est très simple
aussi là-dessus.
Il y a des sanctions qui existent. L'arbitre, peut-être que pour casser un match, il va pas le faire. Mais en fait, pour l'état global, l'état mental global du championnat ou d'un match, bah, ça serait peut-être bien de cartonner tout de suite. Alors tu vas me dire, bah oui, mais cartonner, on va finir à combien?
C'est le cas sur cette tour d'ailleurs, Sylvain.
Exactement.
C'est les capitaines uniquement qui doivent parler, sinon c'est carton pour les autres joueurs.
C'est pour ça que je veux dire. C'est qu'au final, on s'inspire de d'autres disciplines. Les footballeurs doivent un petit peu plus se mesurer. Mais par contre, moi, ce que je veux voir, c'est très bien, et je regarderai la finale, je regarderai son match aussi, l'arbitre. Mais voilà, et puis que ça soit beaucoup moins opaque. C'est ça aussi qu'il faut dire, beaucoup moins opaque dans la notation, que ça soit beaucoup plus transparent. Et puis qu'un jour, un arbitre, bon bah, qu'il sache reconnaître, parce que nous, on sait aussi lui reconnaître. Bon bah, à un moment donné, t'as fait une connerie. Bon bah, t'es grand aussi, tu peux le dire. Ah. Et ça, c'est pas un problème. Mais et moi voilà, j'attends aussi de voir beaucoup de choses. Je l'encourage à faire une très belle finale, ce qui mettra en avant notre arbitrage quand même, mais qu'au moins les choses en interne, elles soient réglées quoi.
Ouais, mais moi je défendrai toujours les joueurs de foot. Je suis un ancien joueur de foot, mais je pense aussi qu'il y a eu peut-être une petite remise en question aussi.
Bah bien sûr.
De bien sûr. Tu vois, d'expliquer aussi un petit peu que l'arbitre, attends, il a le droit à faire une erreur. Et t'as tout à fait raison en disant que il doit s'expliquer. C'est exactement ce qu'on voit dans le rugby. T'as pris un bon exemple parce que je trouve que c'est là-dessus, c'est vraiment quand t'entends les arbitres de rugby, ils expliquent tout de suite. Et ça calme tout de suite le débat. Sauf qu'en France, malgré des explications, une fois j'avais regardé un match, tu sais, où il t'entendait tout ce qui se passait sur le terrain, je crois que c'était un match du PSG, mais c'était une horreur, c'était PSG contre je sais plus qui, t'avais tout le monde qui venait discuter à chaque coup de sifflet de l'arbitre, on venait discuter, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et ça je trouve que c'est insupportable pour... et moi qui suis un ancien joueur de foot, quoi, je veux dire,
tu dis avec cette casquette-là aussi, hein. Donc c'est...
Exactement, ouais. Il faut aussi se remettre un petit peu, je pense, en question. S'ils réussissent dans d'autres championnats que le nôtre, peut-être qu'il faut aussi de temps en temps se remettre un petit peu en question sur nos décisions de club, quoi. Que les dirigeants de chaque club peut-être disent, écoute, discute un peu moins et on verra. Peut-être que
qu'ils discutent déjà entre eux pour nous trouver un diffuseur.
Oui, c'est ce que j'ai.
Pas mal, déjà.
Ils sont déjà bien occupés là, les dirigeants
déjà, qui s'occupent de ça.
Et
puis après on verra.
Bon, bah merci Valentin Jamin d'avoir été avec nous pour
avec grand plaisir.
Tu vas suivre évidemment cette finale demain, puis tu rentreras à Paris nous raconter tout ça sur RMC. Merci beaucoup Valentin. 18h44 sur RMC. L'intégral Euro revient tout de suite. Dernier quart d'heure à venir où on va parler un petit peu de l'équipe de France olympique, messieurs, avec peut-être des petites pépites qui finiront chez les A dans quelques années. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Euro.
Flora Moussi. Dans moins d'un quart d'heure maintenant, c'est votre rendez-vous cyclisme du soir, l'After Tour avec Christophe Cessieux et toute l'équipe pour débriefer cette 14e étape du Tour de France, étape de montagne dans les Pyrénées remportée par Tadej Pogacar. On est toujours avec Steve Savidan et Tony Vérel pour parler foot, évidemment. La finale de l'Euro, c'est demain entre l'Angleterre et l'Espagne, sans la France donc, mais on pense déjà à l'avenir. Les Bleuets, cette fois-ci, qui pourraient nous offrir de belles sensations cet été lors des JO à Paris, avec de jeunes talents que l'on pourrait très vite retrouver chez les A. Jeannot Séguier est avec nous, notre jeune talent à nous. Salut Jeannot.
Bonjour Flora, c'est gentil. Bonjour à tous.
Oui. Est-ce que tu vois cette équipe de France olympique, bon, j'imagine que oui, hein, mais des profils qui pourraient bien venir pallier aussi ce manque de créativité qui nous a tant fait défaut pendant cet Euro?
Oui, au-delà de la créativité, il y a des postes, hein, qui vont être des postes clés. Oui. On ne
l'évoquait récemment, et notamment le poste de latéral droit, même si Koundé a été convaincant dans son rôle pendant ce championnat d'Europe. Moi, je trouve que si on pouvait avoir la bonne idée d'avoir un vrai latéral droit à ce poste, capable de...
Sincèrement, qu'on aimerait bien. Peut-être...
Voilà. Donc, dans les noms qu'on peut citer, il y en a un qui sera pas au jeu parce que on n'a pas voulu le libérer, en l'occurrence Malo Gusto avec Chelsea. On va attendre avec impatience de voir ce que va donner Kylian, le latéral droit de l'équipe de Fribourg, qui va être titulaire à ce poste-là sur ces championnats d'Europe, sur ces Jeux Olympiques. Après, il y a des gars comme Truffert aussi qui vont taper à la porte, même s'il a déjà eu une sélection, souvenez-vous, quand il avait été appelé pour pallier le forfait et de Mendy et de Lucas Hernandez, parce qu'il était à l'époque avec les Espoirs pas très loin du château. Et c'est quelqu'un qui va être titulaire dans ce poste de ailier gauche, peut-être en concurrence avec Bradley Loco, mais plus Truffert en tout cas sur le dernier match. Il a été plutôt très bon contre la République Dominicaine. Et après, c'est dans le milieu de terrain où il va falloir qu'on regarde un petit peu de quelle manière un gars comme Khéphren Thuram, qui était dans la liste des JO, mais qui a quitté Nice, ouais, et qui est parti à la Juve, et la Juve n'a pas voulu le laisser faire les JO. Donc si vraiment il prend une dimension à la Juve, d'autant plus que Rabiot va quitter le club puisqu'il est en fin de contrat. Donc à surveiller, parce que bon, ben Kanté, on suppose que la pige de l'Euro va peut-être pas continuer. On peut parler aussi de Manu Koné, qui va être titulaire au milieu de terrain très certainement dans cette équipe des Olympiques, qui est à Gladbach aujourd'hui, mais qui va très certainement changer de club pendant ce mercato estival. Et puis ensuite, il y a celui dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Mikael Olise, qui a signé au Bayern, qui a été très malin parce qu'il a tellement envie de jouer les Jeux qu'il leur a dit: ok, je viens chez vous, mais vous me laissez faire les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. On rappelle quand même que le Bayern n'a pas permis à Mathys Tel de jouer les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est plutôt déjà un bon réflexe. Et quand on voit le rôle qu'il a dans un 4-4-2 en losange, on peut se dire qu'on tient peut-être le successeur d'Antoine Griezmann. Après, on peut citer Cherki, on peut citer Désiré Doué, parce que lui aussi, comme son nom l'indique, est doué, a beaucoup de talent, et c'est quelqu'un qu'on va scruter. Et après, c'est le poste de numéro 9, parce que finalement, le départ à la retraite internationale de Giroud, on a vu que Colomouani était capable d'eux, on a vu que Thuram avait des difficultés, sauf que derrière, chez les jeunes, alors je vous citerai pas Alexandre Lacazette, hein, mais chez les jeunes, il y a quand même Kalimuendo qui peut-être jouer sa carte dans un profil différent de tout ce qu'on a aujourd'hui sous la main. Mais après, et j'oublie pas Warren Zaïre-Emery aussi, hein, qui a participé à l'Euro, mais qui a 0 minute de temps de jeu. Mais après, ça sera la volonté de Didier Deschamps de, oui ou non, changer d'air, modifier sa façon de voir les choses dans la perspective de cette Ligue des Nations qui arrive et de ces éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique et Canada, qui vont débuter ou qui ne vont pas débuter avant le mois de mars 2025. Donc, des noms, on va en découvrir sur ces Jeux Olympiques, j'en suis persuadé, avec des talents, et on l'a déjà vu avec les matchs de préparation. Après, c'est la volonté de...
D'intégration de Didier Deschamps.
Hein.
Forcément. J'ai deux attaquants en plus avec moi, ça tombe bien, parce qu'on a, on voulait parler de l'attaque. Messieurs, Jeannot, on a parlé un petit peu aussi de ce poste de numéro 9 qu'il va falloir renouveler, même les postes sur les côtés. On a parlé de Mikael Olise aussi, qui est un joueur dont on parle beaucoup, qui a brillé en Angleterre. Il a un profil très intéressant aussi. C'est un joueur qui peut convenir aussi au jeu de l'équipe de France.
Vas-y, tu nous posais la question. Alors moi, ça va être moi je vais être assez catégorique. Non, mais moi je vais être très catégorique. Le poste de numéro 9 va dépendre que d'une seule personne et pas que de Didier Deschamps. Ça va dépendre que de Kylian Mbappé. Parce que quand on se dit qu'au final à droite, c'est Dembélé, je pense encore pendant quelques temps, et il y a du monde quand même aussi un petit peu pour l'aider. À gauche, ça va être Barcola, on va dire que c'est la suite logique. Oui, parce qu'il est déjà installé, il a découvert une première grosse compétition, donc sur la Ligue des Nations, une deuxième vers la Coupe du Monde, et puis après ça va dépendre de Kylian Mbappé, comment lui sera en club au Real de Madrid. Donc je pense qu'il sera sans doute neuf, je pense. Mais
je pense qu'il aura le numéro 9 en plus.
Il aura le numéro 9, mais c'est, en fait ça va être ça. L'attaque, on peut prendre tous les autres postes. Je pense que ça va vraiment dépendre de la sensibilité de Didier, comment il va vouloir intégrer des jeunes, tout en sachant qu'on n'a que 2 ans sur cette Coupe du Monde. Après un échec, et là il peut reconstruire un petit peu, mais pas bouger beaucoup. Hein. Didier Deschamps n'aime pas forcément
son style en plus.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc là, Zaïre-Emery, Il a intégré le groupe France. Bon, il a peut-être la déception de ne pas faire l'Euro, mais on se dit que c'est l'avenir quand même, hein, à son poste. Takavamiga,
Steve, il a surtout la déception de ne pas faire les Jeux. Parce que l'Euro.
C'est ce que j'allais te dire aussi. Ah oui, non, mais en plus, c'est ce que j'allais te dire.
Bon, honnêtement.
Donc en fait.
Après, si tu intègres des joueurs et que tu leur donnes pas de temps de jeu.
Ah bah oui, oui.
C'est comme si mais tu les intégrais pas, quoi.
Exactement. Donc, oui, mais il l'a intégré peut-être aussi, dans le principe, viens découvrir une grande compétition avec Léa, parce que demain, c'est toi.
Ouais.
Peut-être,
ouais.
Je te dis bien.
Respirer.
Tu vois,
viens vivre l'odeur de. C'est un peu international. Ça, ouais, moi, on me dit ça, ça me rend fou, moi, je te le dis.
Un petit peu. Mais, une chose est sûre, c'est que tous les autres postes, alors je dis même encore gardien, je pense que les espoirs, en tout cas, l'équipe olympique, là pour l'instant, sur les trois qui sont profilés, même si Areola, je pense que après la Coupe du Monde, je pense que ça sera fini. Mm-hmm. Mais en tout cas, les deux numéro 1 ou deux, ouais, et numéro 2, ça bougera pas. L'axe central défenseur, Saliba, je pense que ça va pas bouger tout de suite. Mm-hmm. Upamecano, ça peut être un petit peu fébrile, je dis bien, par période.
Bah, ça rajoute aussi de sa saison. Il va reprendre du jeu.
Et j'allais dire Konaté. Là maintenant on a nos postes de latéraux, mais c'est un chantier depuis des décennies. Milieu de terrain, bah il y a du monde. Et après sur les côtés offensifs, si on reste toujours dans un même système, bon bah ça se met en place. Mais après c'est le poste de numéro 9. C'est tout. Et si on me dit que là il y a des jeunes, mais je suis même un peu dégoûté pour eux. S'il y a des jeunes qui aujourd'hui se disent tiens l'intégration rapidement le futur en équipe de France A, j'ai envie de te dire non pas avant 10 ans quoi.
Ce qui est dommage aussi, ce que je trouve dommage, c'est que justement que tout dépend d'un joueur, encore une fois.
Tu vois,
je le sais tout ça. Mais si tu veux, ça n'empêche que tu peux en parler. Tu vois, quand tu parlais par exemple de Dembélé à droite, moi je trouve qu'il y a d'autres joueurs aussi.
Il y a autre chose à aller chercher.
Il y a autre chose.
Après, ça dépendra de lui. Il part numéro 1, mais après, ça dépend de lui.
Oui, mais c'est ça.
De toute façon, Olivier peut jouer à droite aussi.
Exactement.
Oui, mais il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs talentueux. Alors après, moi aussi, je suis quand même pour l'expérience. Être balancé trop vite en équipe A, pour moi, je trouve qu'il faut déjà bien mûrir, bien prouver dans ton championnat ou championnat étranger. Et après seulement avoir ta chance. Je trouve que maintenant, l'équipe de France, on y va trop facilement. Je veux dire, dès qu'on fait une bonne saison, une demi-saison, on marque quelques buts, boum, on est balancé. Je veux dire, à mon époque, à moi, il fallait vraiment avoir prouvé avant de pouvoir prétendre.
Et oui, mais il n'y avait pas la puissance sélection des réseaux sociaux à ton époque aussi.
Exactement. Pourquoi Tony, Yamal, il est pas assez mûr?
Non, c'est pas ce que je veux dire. Tu sais bien que tu me parles de ça. Il est très mûr, il est bien plus mûr que d'autres joueurs de son âge. Mais si tu veux, il a le respect de ses aînés autour de lui. Si tu veux, il est mis là parce qu'il a déjà prouvé à Barcelone. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, une équipe, c'est un tout. Tu dois avoir des joueurs d'expérience, tu dois avoir des joueurs en pleine force de l'âge, tu vois, à 25 ans, et tu dois avoir des jeunes joueurs. Si tu penses qu'avec une équipe de jeunes joueurs talentueux, tu vas gagner, c'est pas vrai. Si tu penses que avec une équipe de vieux expérimentés, tu vas gagner, c'est pas vrai.
C'est l'équilibre.
C'est un équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on veut trop vite balancer les joueurs en équipe de France, et des fois, ça les grille. Je veux dire, et moi, je pense que tout ne doit pas dépendre d'un joueur. Je supporte pas cette image de dire on va attendre si Kylian va pouvoir jouer ce poste-là ou pas. Pour moi, je trouve bien meilleur sur un côté, même s'il est passé à côté de sa compétition, mais ça reste un joueur extraordinaire. Et pour moi, sur le côté, c'est son meilleur poste. Maintenant, après, c'est pas un avant-centre pour moi. Toi, Steve, qui est encore plus un avant-centre que moi.
Messieurs, je suis désolé, je vais devoir vous couper parce que faut qu'on passe le témoin. C'est un vaste sujet, mais il y a encore demain, on en parlera, longtemps.
Si
on va remercier Jeannot d'avoir été avec nous pour les dernières infos. Merci Jeannot, on se retrouvera évidemment demain
au
commentaire de cette finale entre l'Angleterre et l'Espagne demain sur AMC.